Radio Cité Genève. L'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir à Genève un grand sculpteur français, Rachid Kimoun. Mon cher Rachid, tu as une activité foisonnante, tu as une actualité tout aussi foisonnante, mais je voudrais d'abord, auparavant, te présenter à nos auditeurs et je te pose la question de toujours, quel petit garçon étais-tu ?
Bonjour Viviane, un garçon très gentil, pas turbulent du tout.
Tu étais gentil ?
Oui.
Tu étais toujours gentil, Rachid.
J'ai un frère aîné qui a 2 ans de plus que moi.
Tu es né où ?
Je suis né à Decazeville, dans l'Aveyron. Donc voilà, deux parents kabyles, berbères, d'Algérie. Donc, il me revient cette anecdote où mon frère dessinait tout le temps quand nous étions petits. Et je le regardais dessiner. Et lui est devenu cuisinier et moi sculpteur.
Et toi, tu faisais pas la cuisine quand même, petit ?
Je le fais aujourd'hui
pour les amis,
belle,
pour les amis.
Parce qu'elle est incapable de toucher à une casserole, une poêle.
Bon, on va tout dire, parce que c'est très important, parce que Rachid, tu es le compagnon, le mari d'Ève Ruggieri. Donc, on n'attend pas d'Ève la voix, on n'attend pas d'Ève de faire la cuisine. Non.
Elle a beaucoup d'initiatives, elle touche à tout. Mais là, faire sauter l'immeuble vaut mieux pas. Mettre une casserole sur le feu et partir téléphoner, non. Je préfère, même fatigué, rentrant de l'atelier, préparer quelque chose.
C'est plus raisonnable.
Oui, mais je crois que de ce côté-là, elle a toujours dit que c'était pas son truc.
Non, c'est
comme
clair.
Comme on dit.
Alors, donc, tu es un petit garçon gentil, tu as un frère. Tu es bon à l'école ? Comment ça se passe ?
Oui, très bien. Mais il arrive le conseil d'orientation. Je dis timidement que je veux faire du dessin. Et on me dit, non, vos parents n'ont pas les moyens de vous payer de grandes études. Et je me retrouve dans un collège où on me propose sténo, dactylo, comptabilité.
Ah oui.
Donc, au bout de 3 mois, je me demande ce que je fais là. Et il y avait la possibilité d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Et j'ai trouvé un lycée d'art appliqué où j'ai été reçu. C'était merveilleux. Nous étions 2 garçons pour 2000 filles.
Ah.
Ça venait d'être mixte.
Et tu as les yeux brillants en disant ça,
mon
cher
Rachid.
Ah non,
mais il y avait la fille qui vous apportait le café, la fille qui vous apportait le croissant, enfin tout.
C'était... Quel seigneur !
Ah, c'était formidable. Et j'ai eu surtout à ce moment-là un prof merveilleux qui a compris que je dessinais très bien et qui m'a aidé à préparer l'entrée à l'école des Beaux-Arts, ce qui fut fait l'année
Donc j'ai fait les Beaux-Arts de Paris.
Les Beaux-Arts de Paris. Voilà, ça a été pour moi quelque chose de merveilleux, c'était... Enfin, et ça a été pour moi un lieu de rencontre, un lieu de voilà où tout se met en place comme ça dans la tête. Et puis j'ai eu cette chance de, au-delà du fait que on sort avec un diplôme, tout reste à faire. Voilà, c'est comme disait Picasso, on ne cherche pas, on trouve. Mais ça a été une période merveilleuse de rencontres, puisque j'ai connu, à travers son assistant Jean-François Dufaux, j'ai connu César, j'ai connu Viseux, Charpentier, d'autres sculpteurs. Et bien qu'ayant été diplômé en peinture, je me suis vraiment dit que tout ça, c'était pareil, la peinture, le dessin, la gravure, et que voilà, il fallait trouver là-dedans quelque chose qui allait faire que je m'épanouisse.
Alors, tes premières œuvres, qu'est-ce que c'est ? Les toutes premières ?
Alors, les premières, je dirais, j'ai toujours été fasciné par la calligraphie et les peuples qui cultivent leur écriture. Et donc, j'ai commencé par des dessins, des collages. Et du reste, je me retrouve dans une exposition là, à Paris où j'ai pu, il y a 40 ans, 50 ans même, exposé avec certaines personnes. Et quand je me suis entendu reprocher des dessins collages, je me suis dit, mais moi, je ne suis pas calligraphe, je suis peintre. Mais voilà, c'est cette idée d'écriture, mais finalement, ces critiques m'ont aidé. Je suis passé à une scénographie, je dirais, très personnelle, puisque depuis plus de 40 ans, je fais les trottoirs du monde. Voilà. Et je m'intéresse à la calligraphie des sols.
Qu'est-ce que c'est que la calligraphie des sols ?
Eh bien, la calligraphie, je trouve qu'on ne regarde jamais assez où on met les pieds et où que l'on soit, à Genève, à Paris, à Londres, à New York, à Shanghai, je m'intéresse au bitume et à tous ces signes distinctifs. La plaque d'égout, la grille d'arbres, les pavés, et ce sont comme des tatouages sur la peau. Et j'en prélève ces signes que je reconstitue. Et de ces extraits du sol, je fais mes personnages, les enfants du monde, que j'appelle les extraterrestres. Quand je reçois des gamins à l'atelier, je leur dis « qu'est-ce que c'est un extraterrestre ?» Et ils me disent « waouh, c'est un type moche et tout, ils viennent de là-haut. » Enfin, je demande à un autre, pareil, c'est « ah, ils sont ouverts, ils sont… » Je leur explique à la fin qu'ils ont tous faux. Un extraterrestre, c'est un extrait du sol, et c'est comme ça que j'ai fait basculer l'image et que j'en ai fait mes enfants du monde. Voilà, c'est une des sculptures les plus importantes, qui est à Paris, du reste, depuis 2001. Il y a 21 pièces en bronze pour symboliser l'entrée dans le 21e siècle. Et depuis, la sculpture est entrée dans le patrimoine de la ville de Paris.
On va en parler, parce que là, c'est beaucoup. Ça, c'est dans ton actualité, puis on va en parler de cet endroit absolument extraordinaire qui est ton atelier. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on écoute ?
Alors, séquence nostalgie. Eve vient de passer par là. Luciano Pavarotti qui reprend une chanson merveilleuse qui s'appelle Caruso.
Radio Cité Genève. L'œil du commissaire priseur, Viviane Jutto.
Forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene, ma tanto, tanto Thank you. potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene stai. È una catena ormai che scioglie il sangue di
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur, avec le grand sculpteur français Rachid Kimoun. Rachid, tu as un atelier qui est un endroit totalement improbable. Quand on arrive chez toi à Aubervilliers, près de Paris, on a l'impression qu'on va dans un coupe-gorge, on ne sait pas où on s'est égaré, et puis ensuite, on déboule dans un endroit absolument magique. Tu nous parles de cet atelier ?
Oui, il est vrai qu'on ne s'y attend pas. En fait, on arrive au fort d'Aubervilliers. Et le fort d'Aubervilliers, c'est un fort de plaine avancé, ce que nous appelions les fortifs. C'est toutes ces constructions de 1840 qui servaient à protéger Paris. Et donc, j'avais, moi, un atelier, mais classique, je dirais, d'une inspiration romantique, avec un duplex, l'appartement... En haut, l'atelier
là, on
en bas.
Est en quelle année, là, quand tu
on
as...
On est dans les années 80.
D'accord.
Et puis, cet atelier ne pouvait pas, avec des enfants, quand il faisait mauvais, ben, l'atelier se transformait en piste cyclable et autres. Et j'ai eu la chance de découvrir dans le fort d'Aubervilliers un hangar que je partageais avec un type qui mettait au point des moteurs diesel. Mais bon, on a fini par se séparer et s'arranger. Mais voilà, c'était le service des essences de l'armée. Le fort appartenait entièrement aux militaires et c'était une espèce de zone interdite. Et petit à petit, l'armée est partie et ils ont laissé leur place aux casseurs de voitures.
J'allais te dire, moi, je me souviens d'être venu te voir traverser un casse de voiture avec un monsieur qui dormait dans une des voitures qui était...
Le gardien.
Oui, qui était le gardien, mais qui était assez terrifiant lui aussi. Et que, je crois que c'était un ancien repris de justice.
Alors, il était...
Il avait tout
il
à fait
gentil,
la tête de l'emploi.
Il était souvent ivre-mort, donc...
Oui, c'est ça.
ne savait plus à qui il avait affaire, mais bon, c'était un peu la cour des miracles. Effectivement, des gens venaient maquiller des bagnoles pour repartir, enfin. Mais j'avoue qu'il y a... Il y a 40 ans, j'aurais mis de l'ordre un peu, parce qu'il y a tous ces casseurs, et comme j'avais aucun contentieux avec l'un ou l'autre, pour ce qui est de pare-chocs ou de phares, les réunions d'associations de locataires étaient assez dures, et bon, ils ont dit, allez, l'artiste sera président de l'association. Et c'est comme ça que j'ai pu arranger un peu tout le monde et commencer à faire le ménage. Il fallait qu'on sache qui était qui dans ce fort, parce que ça appartenait à l'État, même la police n'y venait plus. En disant propriété privée.
Eh oui.
Non, et c'est... Alors, c'est une...
Comment est-ce que tu l'as transformé ?
Eh bien, d'abord, il faut savoir qu'il est sur le rempart. C'est une histoire un peu terrible, hein. Et quand tout appartenait à l'armée, l'armée, il testait des gaz sur des animaux. C'est une coque en béton étanche. Et donc, ce lieu de mort, je dirais, et s'est transformé en lieu de vie. Et c'est devenu, au bout de 40 ans, ma maternité, là où j'ai fait naître toutes mes sculptures qui sont aujourd'hui un peu partout. Voilà, c'est paradoxal, c'est assez troublant, mais c'est ainsi.
Alors, et donc, Rachid, tu as raison de dire mes sculptures sont un peu partout, parce que dans le livre qu'a écrit ta compagne Ève Ruggieri, « Au cas où je mourrais », elle dit 32 ans, elle parle de toi, oui. Et elle dit, à la page 315, 32 ans après notre rencontre, ces sculptures sont installées à Shanghai, au long des berges du fleuve Yangtze-Kiang, le fleuve bleu, au musée de Cuernavaca au Mexique, en Italie, à Monaco, à Antibes, en Belgique, en Andorre, où tu as invité 7 personnages au perché dans la montagne. Mmh. À Paris, à l'Institut du monde arabe, avec le relief des hommes-valises acquis par le musée lors de son inauguration, à la Défense, avec tes serpents de bronze, sur les terrasses Yitzhak Rabin, à Bercy.
Enfin, oui, il y en a autant au bord de la
finalement,
mer.
Finalement, je ne sais pas mer, où tu n'es pas
montagne.
Exposé.
Non, mais c'est, je crois, le rôle, enfin, le vœu d'un sculpteur d'avoir des œuvres sur la place publique. C'est une manière d'exister merveilleuse. Qu'on soit, oui, au bord de la mer ou en pleine ville, ou, et ce n'est pas simple, je veux dire, voilà.
Alors, on va reprendre le fil. Donc, tu t'installes dans cet atelier. Et là, à cette époque-là, qu'est-ce que tu y fais ? Tu arrêtes d'arpenter les trottoirs ?
Ah, j'ai toujours...
Non, tu continues toujours.
Il y a toujours cet intérêt pour les sols, mais j'ai un répertoire qui est large. Il y a les,
Prenons de façon chronologique, après les trottoirs, c'est quoi ?
Ça a toujours été le trottoir, mais je passe de la peau des rues. Vous savez, je cite cette phrase de Paul Valéry, chez l'être humain, l'organe le plus profond, c'est la peau. Et c'est vrai que c'est ce qui m'avait intéressé en tout premier, mais il y a le squelette. Donc, j'avais travaillé sur des dinosaures, par exemple. Un jour, je m'interrogeais sur... on découvre près d'Aix-en-Provence un site de ponte, et on se dit, on repart à s'interroger sur les dinosaures. On dit, alors, ils pondaient un œuf, ils en pondaient deux, ils pondaient ensemble ou seuls, bref. Et... cette idée de mémoire, en fait, j'aurais pu être un archéologue, c'est quelque chose qui me passionne. C'est l'histoire, le temps, tout ce qui peut faire trace d'humanité, et dont je suis peut-être un peu aujourd'hui le maillon. Et c'est cette idée que donc j'ai travaillé sur ces objets de récupération. Je vous parlais d'Aubervilliers, j'étais au milieu d'une casse automobile. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'un objet quand on a envie de redonner vie ? Parce que l'art, c'est une promesse de joie. Voilà, c'est pas un constat terrible du monde dans lequel nous vivons. Je crois que chacun d'entre nous, normalement constitué, est capable de mesurer tout ce qui peut se passer autour de lui. À l'image de ce que je faisais dans la rue, où quand je m'apprêtais à mouler une plaque d'égout, les premières personnes qui viennent me voir, c'est des enfants. Et un gamin arrive et me dit « Mais qu'est-ce que tu fais, monsieur, là ?» Je dis « Je moule une plaque d'égout. » « Et pourquoi tu fais ça ?» Ben, je lui dis « Parce que ça va devenir un ventre, ça va devenir une tête. Et voilà, je vais faire un bonhomme. » Et là, il me dit « Mais est-ce que je peux le faire avec toi ?» D'accord, mais c'est un produit très délicat à mélanger et le gamin le fait avec moi parce que toucher, faire, c'est essentiel, ça.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ? Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi ?
Uriah Heep, une chanson qui s'appelle « Rain ». C'est nostalgique, c'est triste, mais ça me fait du bien.
Radio Cité Genève. L'œil du commissaire-priseur, Viviane Juteau.
Mmh. It's raining outside, but that's not unusual. But the way that I'm feeling's becoming usual. I guess you could say the clouds are moving away, away from your days and into
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur, avec Rachid Kimoun, le grand sculpteur français. Rachid, tu nous as expliqué comment tu avais trouvé ton atelier, à quoi il ressemblait à l'époque. Aujourd'hui, c'est un lieu béni, cet atelier. Parle-nous-en.
Je crois que j'ai le plus bel atelier à Paris. Ou, enfin, je ne suis pas à Paris, mais on ne peut pas rêver mieux. Travailler dehors, travailler entre ciel et terre, hein, puisque je suis dans une nature vierge. Il y a des endroits où personne n'a mis le pied depuis plus d'un siècle. Bref, ça a été pour moi merveilleux et les choses se transforment aujourd'hui. Hein. On est à l'ère du Grand Paris et ce qui est intéressant, c'est que les autorités locales et nationales ont accepté l'idée que j'en fasse un jardin extraordinaire et un musée.
Alors, un jardin extraordinaire, raconte-nous.
Un jardin extraordinaire, c'est au moins pour protéger mon œuvre, y mettre des choses, des œuvres d'autres sculpteurs que j'aime. Et voilà.
Alors, tu vas mettre qui, par exemple?
Alors, je pense à César, que j'ai bien connu.
Moi aussi.
Je pense à Féro, parce qu'il y a déjà dans le sursite une œuvre monumentale de Féro. Et donc, je pense à Niki de Saint-Phalle, je pense à Cardenas, à tous ces artistes d'après-guerre, qu'on pourrait appeler la seconde école de Paris, et qui m'ont nourri, en fait. Et donc, toute cette génération qui, voilà, que je voudrais... Encore une fois, on est le maillon d'une chaîne.
Et... Alors Rachid, pour qu'on comprenne, donc on quitte la ville d'Aubervilliers, on monte au fort, d'accord ? C'est en fait, là où on suit un chemin qui est en sable, hein ? On roule sur du sable pendant un bon moment.
C'est
hein.
bien
les taxis s'inquiètent.
Hein. Oui, ça c'est toujours drôle. Parce que vous quittez l'avenue principale vous entrez dans le fort. Donc les gens se demandent, enfin le taxi vous regarde dans le rétroviseur en se disant
où on va là. Gorge.
Mais oui, parce que bon, on est en banlieue et en banlieue nord. C'est pas forcément chic, mais je pense que Montmartre au début du 20e siècle était tout aussi coup-gorge.
Tout à fait.
Donc, voilà, mais les choses évoluent, la morphologie de la ville aussi. Et donc, j'ai cette chance d'être là et il faut penser loin.
Alors, tu as ton jardin extraordinaire qui entoure donc ce qui était autrefois un hangar et qui n'est plus du tout un hangar.
Alors, ce hangar, je veux le transformer. Et vraiment, bon, j'ai des modestes prétentions d'architecte, c'est-à-dire qu'il y aura un volume... qui accueille
aujourd'hui, c'est tout blanc, c'est très beau déjà aujourd'hui, c'est blanc.
Oui, mais alors, on est sur des fortifs, ça veut dire qu'il y a des galeries qui sont en dessous, qui sont les bases du rempart. Et entre mon atelier en béton et les galeries, il y a de la terre. Donc on ne peut pas accueillir du public dans une structure qui n'est pas aux normes. Donc il me faut tout recasser pour reconstruire. Mais ça donne aussi l'occasion de repartir sur une œuvre nouvelle et de me friter à l'architecture. Pareil, c'est jusque-là, je faisais de la sculpture, de la peinture, du dessin, mais l'idée de bâtir ne me fait pas peur. J'avais déjà fait des transformations dans l'atelier. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de qui complète, je dirais, toutes mes préoccupations esthétiques.
Donc, la ville de Paris accepte qu'il y ait un musée à cet endroit-là. Donc, en fait,
attention, on n'est plus à Paris, où j'ai mes enfants du monde, on est à Aubervilliers.
On est à Aubervilliers.
Et la maire d'Aubervilliers me soutient complètement. Alors, il y a le conseil départemental, vous avez le ministère de la Culture, vous avez la métropole, la région. Tout ça, c'est... Alors, j'ai la chance d'être aidé par quelqu'un qui est rompu aux relations avec les administrations, parce que c'est pas mon truc. Moi, sorti de...
Un artiste, c'est pas son truc, hein.
Mais voilà, je crois que quand on récolte ce que l'on sème, quand on a croisé des gens avec qui il s'est passé de belles choses, eh bien, quand on leur dit « tu peux venir m'aider », ils disent très volontiers, et c'est ça qui est merveilleux.
C'est là où on voit que tu es un gentil garçon, Rachid. Tu as commencé l'émission en disant « je suis un gentil garçon ». J'étais un gentil garçon.
Je pense, sinon, des gens n'accepteraient pas aujourd'hui de partir à l'aventure avec moi en disant « débrouille-toi ».
C'est une aventure pour toi ?
Ah, c'est une aventure. C'est quelque chose de... C'est énorme, énorme. Combien d'art... Créer un musée d'artistes vivants, ça n'existe pas. Alors, il y a des gens qui l'ont fait. Bon, je pense à Niki de Saint-Phalle, en Italie, avec son jardin des tarots. Mais voilà, c'est difficile parce que on est face à une administration qui a des préoccupations qui ne sont pas les vôtres. Eux, aujourd'hui, c'est quel béton vous utilisez, bas carbone, les contraintes écologiques. Moi, je parle de création artistique. C'est comment penser un jardin, comment vous avez 2 hectares de terrain, comment vous allez comme une galerie dans laquelle on va exposer telle chose. Celle-là, on ne peut pas la mettre, elle est trop grande. Bon, bref, c'est une création, vraiment. Et des gens ne sont pas forcément en face de vous disposés à l'accueillir. Alors, il faut... Pensez au public et à d'autres qui sont déjà venus à l'atelier, apprécient ce lieu. Quand des gens arrivent, ils disent « waouh ».
Ah, c'est vraiment ça.
Donc, c'est pour ça que le jardin, ça ne pouvait être que le jardin extraordinaire. Parce que jamais on s'attendrait, en arrivant là, à trouver quelque chose. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute ? Je crois que ça tombe bien, justement. Hein.
Alors, on va écouter Pink Floyd. Et là, je peux dire quelque chose. Je parlais de la rue, on parle du street art. Hein. Or, j'ai pu rencontrer à travers le monde des street arteurs et je les ai vus se chamailler. Mais toi, tu fais du taf, du graphe, toi, de ceci. Or, je peux dire solennellement ici, je suis le seul street arteur au monde à n'avoir jamais peint un mur. Parce que qu'est-ce qu'ils font en fait ? Ils peignent des murs. Donc ça devrait s'appeler le wall art. Hein. Même Basquiat à New York m'a vu mouler une plaque d'égout, m'a fait top.
Top, avec le pouce en l'air.
Le street arter, moi, je ne savais pas que j'en étais. Hein.
Bon, attends, on va écouter Pink Floyd. Et puis, on va revenir après à tout ce parcours extraordinaire que tu as.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur, avec Rachid Kimoun, le grand sculpteur français qui vient de nous décrire son atelier extraordinaire, son jardin extraordinaire, qui va devenir un musée. Et je voudrais maintenant parler, s'il te plaît, Rachid, de ton actualité, c'est-à-dire des expositions. Raconte-nous.
Alors là, je participe à une exposition au Musée d'art moderne de la ville de Paris et on m'a demandé l'autorisation de prêter une œuvre qui appartient à l'Institut du monde arabe quand il s'est créé. Cette pièce m'avait été achetée et donc ça s'appelle L'homme valise. Voilà, j'avais fait toute une série.
C'est une œuvre qui est grande, non ?
Oui, elle fait au moins 1m70 sur 1m70 et c'est avec toujours des papiers, des matériaux de récupération. Et donc, on retrouve ce côté anthropomorphe hein, de l'objet, le personnage, comme ça, dans des cartons. Et j'en avais fait une patine bronze, là. Et ce que je trouve d'intéressant dans cette exposition, qui s'appelle Présence arabe, c'est toute l'influence de l'école de Paris à travers les capitales du monde. Et c'est assez fou de voir qu'ils viennent d'Irak, du Caire, de Tunis et d'ailleurs des artistes, qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, se sont retrouvés comme ça dans des préoccupations esthétiques qui font de l'art la seule raison d'être au fond. Et voilà, je suis le petit dernier moi dans l'histoire hein, puisque ça part de 1908 à 88, donc c'est plus axé sur tout le mouvement surréaliste qui a vraiment influencé ces capitales arabes. Hein. On dit arabe, mais bon, je vous dis encore une fois, c'est Israël, c'est Irak, et ça qui est magique.
C'est le Moyen-Orient.
C'est le Moyen-Orient avec des chrétiens, des donc je pense à Haddad, je pense à Etel Adnan, enfin des gens avec qui j'ai déjà exposé. Bon, certains ne sont plus de ce monde, mais voilà, et on sent bien qu'il y a une espèce de communion, comme pour la musique, autour de la peinture, de la sculpture, avec cette humanité qui est propre à l'art. C'est peut-être le dernier rempart d'humanité, la création artistique.
C'est beau ce que tu dis, c'est très beau. Alors, Rachid, tu m'as offert un très joli livre qui est ta rétrospective, et en feuilletant, je vois cette photo où tu es sur l'esplanade de la Tour Eiffel avec des quantités de tortues. Raconte-nous ça.
Donc ça, c'est mon côté berbère. Alors, hein, moi, j'ai grandi avec des tortues. Ma mère avait deux tortues, des tortues Hermann hein, à la maison. Et je disais à ma mère, pourquoi des tortues ? Comme aujourd'hui, on pose la question. Et elle disait, la tortue, dans la maison, elle chasse les mauvais sorts et les mauvais génies. Elle protège la maison. Donc, j'ai grandi avec un reptile comme ça. Bon, et un jour, on se baladait aux puces avec Ève. Je vois le casque, un casque militaire. Et je me suis dit, mes horreurs de la guerre. Hein, qui de Goya ou Picasso n'a pas pensé ces horreurs de la guerre? Et là, je me dis, voilà, j'ai affublé une tortue d'un casque militaire, qu'il soit américain, qu'il soit russe, qu'il soit toutes les nations y sont passées. Et j'en ai fait des installations. Et l'idée, c'est qu'on a beau dire plus jamais cela, chaque époque a son lot de violence, de misère, à l'image de la tortue qui hiberne et qui revient au printemps. Et j'ai deux tortues vivantes à l'atelier. Elles sont sorties d'hibernation. Et voilà, à chaque sortie de terre, elles constatent que la guerre est toujours là.
Oui, malheureusement, la guerre est même revenue en Europe, ça c'est terrible.
Elle est toujours là. Je pense que, et comme aucun lieu sur la planète n'a été épargné, quand je fais ces installations de tortues, c'est à la fois un acte mémoriel et ludique. Quand la dernière fois que je l'ai fait avec des gamins à Lyon, il y avait 1200 tortues, il y avait 60 gamins qui m'aidaient à mettre en scène, et c'était magique. Donc les gens se demandent ce qui se passe, on dit c'est beau. Eh bien on peut à la fois parler de choses difficiles et à la fois faire prendre conscience à travers l'art et la poésie de ce qui nous environne et de ce qui pose problème à la société.
Alors en feuilletant ta rétrospective, je vois qu'il y a tout un bestiaire aussi.
Oui, le bestiaire, c'est toujours... il faut faire comprendre aux gens qu'on est dans la civilisation du déchet. Et que ce soit à travers les sols ou les plaques d'égout, j'aurais moulé les mots eau, gaz, électricité, assainissement dans toutes les langues du monde. Or, qu'on soit en Asie, qu'on soit en Europe ou en Afrique, on est tous fait pareil. Et ce qui est essentiel à la vie, c'est l'eau et l'air que nous respirons. Et c'est une manière à travers...
Mais le bestiaire, par exemple, là j'ouvre, qu'est-ce que c'est ?
C'est un ibis.
Il est magnifique cet ibis.
Eh bien, c'est un réservoir. Donc quand je dis réservoir, ça fait penser à l'eau. Maintenant, c'est plutôt un réservoir d'essence. Et on trouve des robinets de raccord de canalisation. On est dans une société du déchet. Et si vous... on peut faire prendre conscience, à travers ces objets auxquels je redonne vie, que il faut que chacun fasse sa part. Et on peut essayer de moins polluer, de moins... voilà.
Mais l'Ibis est extraordinaire. Extraordinaire. Et puis, il y a aussi d'autres animaux. Il y a des taureaux.
Il y a les vaches.
Des vaches.
C'est pareil, qui sont couvertes de plaques de toutes les... Et alors ça, c'est un voyage aux Indes avec elles qui m'avait bouleversé.
C'est les vaches sacrées.
Oui, donc elles font les poubelles. Quand vous arrivez de France, vous ne voyez pas des vaches faire les poubelles. Là-bas, vous avez les chiens et les vaches qui trient. Donc, on se dit, on est à l'autre bout du monde. Et donc, on a, voilà, la vache est sacrée, on n'y touche pas, elle est là, mais elle erre dans ses rues et elle n'hésite pas, comme d'autres, à faire les poubelles. Donc, quand il y a eu le Vachart, on m'avait proposé de faire cette de vaches, j'ai dit, allez, je vais. Et j'avais fait un ours aussi avec les vaches. C'est pareil, quand on voit ces animaux en voie de perdition, parce que la banquise s'écroule.
Ah, tu parlais des ours blancs, pas des ours bruns.
Des blancs, oui. D'accord. Et qui viennent au bord des villes pour faire les poubelles. Donc, et on voit même voilà, ils sont obligés de quitter leur habitat naturel pour aller vers la ville. Donc, c'est toujours assez inquiétant.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
Eh bien, écoutez, je vais écouter. Il y a une chanson qui s'appelle Songbird, la chanson de l'oiseau, de Fleetwood Mac, pour rester très nature.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juto.
Like never before.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire-priseur. Avec Rachid Kimoun, vous avez découvert la carrière foisonnante de ce grand sculpteur français. Et maintenant, mon cher Rachid, j'ai une question. De toutes tes œuvres, de tout ce que tu as fait, des centaines d'œuvres que tu as faites, quelle est ta préférée ?
Et il n'y a pas longtemps, un petit garçon me disait « Laquelle préfères-tu de toutes ces pièces ?» Je dis « Écoute, on ne peut pas choisir, quand on a des enfants, choisir entre celui qui… » On les aime tous.
Alors, c'est le dernier-né ?
Pas forcément. Il y a une part de soi dans chacun d'eux et ils ont tous quelque chose. Ils ont, chaque œuvre a quelque chose de différent qui font que ça ouvre sur l'infini, quoi. La vie est courte et j'observe une œuvre et je me dis j'aurais encore pu aller dans cette direction, faire ça, faire ci. C'est sans fin, quoi.
L'Ibis, par exemple. Tu en as fait plusieurs ou tu en as fait un seul ?
Oh, il y en a eu plusieurs.
Mais l'Ibis dont tu m'as dit tout à l'heure qu'il avait été fait avec un réservoir de moto.
Voilà, c'était un réservoir de moto avec des griffes. En fait, il est né à Marseille. Pour l'anecdote, j'avais été voir une exposition d'antiquité égyptienne et l'affiche, c'était un sarcophage d'Ibis. Et c'était du temps de Marseille. Nous nous sommes croisés. Et je...
Quand Rachid dit « nous nous sommes croisés », c'est avec Ève, avec Ève Ruggieri.
Et donc, je suis allé voir l'expo et la mise en scène était terriblement difficile pour moi parce que ça avait été conçu pour des scolaires. Il y avait des niches, il fallait se baisser et j'avais très mal au dos. Je venais d'installer une exposition. Donc, c'était pénible de se coucher presque pour regarder. Et à la sortie, je me suis assis à une terrasse de café au feu rouge devant moi. Une moto. Et qu'est-ce que je vois ? L'Ibis. En fait, j'ai vu tout de suite le réservoir de cette moto. Et je me suis dit, mon Ibis. Donc, mon voisin casseur, je lui ai demandé s'il avait un réservoir. Non, on n'en a pas. On ne peut pas en toucher comme ça. C'est rare. Et un jour, il m'a quand même appelé en me disant, il y en a un qui est percé. Si tu le veux, tu le prends. Donc, ça ne se répare pas un réservoir percé. Mais moi, comme j'y vais à coups de chalumeau, donc je pouvais... peu m'importait s'il y avait un trou dans le... Voilà, et la pièce est née comme ça, avec des griffes pour planter des fleurs au sol. Voilà, c'est toujours ces objets qui se télescopent.
Alors au fond, c'est un regard avant d'être une sculpture. Tu vois dans des objets de récupération ce que personne ne voit.
Oui, par exemple, je pense au masque. On dit, vous faites de l'art africain. C'est dans le regard des autres que ça se passe. Mais moi, je vois une ampoule, tout de suite, elle m'inspire un visage, une grosse ampoule, mais c'est du verre. Comment je vais... Tout ce que j'appelle ces matériaux métis, comment vont-ils se retrouver ensemble ? Donc, je suis obligé de me faire violence, de passer par le moule. Donc, je vais mouler cette bouteille, je vais mouler ce verre, mouler cette cuillère. Et c'est à travers la cire que je vais réunir tous ces éléments qui vont faire mon œuvre originale, d'où la technique de la cire perdue.
Il faut que tu expliques la technique de la cire perdue, parce que c'est passionnant, ça.
Ben écoutez, voilà, donc pour faire une pièce, je vais transformer, mouler, donc ça prend du temps, un morceau de bois, un bout de ferraille, du verre. Mais une fois qu'ils sont convertis en cire, il me suffit d'un fer chaud pour les souder ensemble. Et c'est cette pièce... comme un masque, par exemple, que tu connais bien.
Absolument.
Je le donne au fondeur et lui va prendre cette cire, va l'enrober dans du plâtre réfractaire, il va faire cuire au four. Donc la cire va brûler, va s'en aller. Et en même temps, le métal qui est prêt à couler va prendre
remplir
la place de la cire. On va laisser refroidir, on va casser la gangue et va apparaître... en dessous, la
dans
pièce.
Sa splendeur, voilà. La pièce. C'est magnifique. Enfin, je trouve que c'est un véritable miracle. C'est une naissance, au fond.
Mais c'est pour ça que j'appelle mon atelier ma maternité. Et c'est vraiment cet endroit que je veux protéger. Et c'est bien que des politiques l'aient compris. Parce qu'on est, je ne dirais pas dans un désert culturel, mais il y a une histoire. Le hasard a voulu que ce soit là, que je m'installe ici. Et donc, on ne décrète pas politiquement de dire... Tiens, là, on va faire des ateliers. Là, on va faire l'art a toujours été, est né là où les artistes sont arrivés, comme ils ont pu. Hein. On parlait du bateau Lavoir à Paris, ou Montparnasse par la suite, où aujourd'hui, Paris est un lieu de monstration. Les artistes travaillent en banlieue, parce qu'ils ont besoin d'espace, et c'est les seuls endroits encore.
Et puis surtout, le mètre carré est devenu tellement cher à Bien Paris sûr. Que ce n'est pas possible pour des artistes.
Oui, et si c'est pour travailler...
Parce qu'il y avait des rues d'artistes, par exemple, dans le 14e arrondissement, il y avait des petites maisons, je me souviens,
oui, mais
quand j'étais
alors
jeune.
On est dans du 50 mètres carrés. Aujourd'hui, on a besoin... on est dans d'autres proportions, dans d'autres... Et encore une fois, tu connais l'atelier... Travailler dehors, c'est merveilleux. C'est quand il fait beau, c'est tellement excitant. Alors que l'hiver, le métal est froid, la terre est froide, tout. Je suis tenté d'hiberner comme mes tortues.
Mon cher Rachid, on arrive malheureusement au terme de cette émission.
Eh ben, merci beaucoup, Viviane.
Mais c'est passionnant, c'est passionnant. Est-ce qu'on peut dire que tu es un sculpteur heureux ?
Un sculpteur heureux. Je disais que l'art est une promesse de joie, mais être heureux, il faut le dire doucement, oui, oui, mais c'est difficile dans un monde dans lequel on vit. Être heureux, c'est un sacré privilège.
Alors l'art est promesse de joie. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Rachid et on remercie aussi Olivier Steinmetz qui nous a enregistré ce matin. À bientôt Rachid.
À bientôt, merci Viviane.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire-priseur, Viviane Juteau.